participant sur l'organisation des journées du livre psy, je vais enlever quelques minutes ma casquette sur l'organisation pour modestement essayer de témoigner sur mon activité professionnelle au titre de psychopédagogue. Car c'est vrai que moi je suis souvent confronté sur un travail auprès d'élèves en difficulté, du primaire jusqu'au lycée, voire même des fois universitaire. Et en fait, j'ai trouvé intéressant de pouvoir avoir un échange là-dessus. Il n'y a aucune prétention de ma part sur une quelconque conférence frontale. Hein. Je mise beaucoup sur un échange mutuel. J'ai souvent été confronté à une sorte de stress qui existe beaucoup au niveau de la gestion de la scolarité. Alors, la scolarité a une structure, a beaucoup de choses extrêmement positives. Je crois que l'enseignement est une excellente structure qui existe au niveau français. Par contre, c'est vrai qu'il y a souvent des choses, quelquefois, qui sont à affiner et il y a une partie au niveau gestion du relationnel et gestion de comment vivre un petit peu son travail, voire même sur le suivi de sa scolarité, où il me paraît intéressant d'échanger là-dessus, puis peut-être aussi que je vous témoigne, suite à vos questions, de votre choix, un petit peu ce que je vis avec certains élèves et parents, parce qu'en fait, souvent, les parents assistent, quand je fais du travail individuel, les parents sont présents sur la séance. On parle souvent de triangulation, donc ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant. Ce qui permet aussi d'avoir un relais au niveau sur un partenariat. Au niveau de l'institution scolaire, on appelle ça un petit peu l'équipe éducative quand il y a des cas difficiles. Et sur le côté un petit peu général, je dirais que pour moi, on a gagné quand on arrive à mettre en lien un petit peu toutes les personnes qui sont intéressés sur l'évolution de l'enfant et de sa scolarité, à savoir l'enfant, sa famille et les intervenants divers, professionnels et compétents. Voilà. Alors, juste pour préciser que Lionel Brook, qui est le... Merci Lionel, c'est gentil. Surtout que c'est une première pour moi, donc je me lance. Hein. Ça, je le garderai celui-là, si tu veux bien. Voilà, donc Lionel Brook, qui est membre de l'équipe de Psychanalyse Magazine, puisque c'est le dessinateur, très talentueux, je le dis en toute sincérité. Et je remercie aussi chaleureusement Chantal Calatayud, directrice de publication, qui m'apporte son soutien et son relais éventuellement, si nécessaire. Voilà, alors j'ai en aucune façon, en toute sincérité, la prétention de faire le présupposé savoir. Donc moi, je vais juste, en quelques mots, essayer de vous dire comment je travaille. J'ai essayé de faire sur ma façon de travailler. Et puis après, on ira. Mais alors là, je compte beaucoup plus sur le côté échange avec vous. On parlera peut-être un petit peu mieux du côté de la dédramatisation, si vous voulez. J'essaye de synthétiser un petit peu, bon, d'une part, tout ce que j'ai appris sur ma formation d'enseignant initiale, puisque l'école a beaucoup évolué. Il faut savoir qu'il y a eu des. Je ne vais pas trop rentrer dans le système structural parce que je ne suis pas même représentatif et je n'ai pas la prétention, mais c'est quand même intéressant à signaler. Il y a eu une évolution au niveau de la politique de l'école qui prend de plus en plus en compte dans l'esprit le rythme de chaque élève. Bon, il y a des systèmes de cycles, des groupes d'aide, bon, etc. Et donc sur des partenariats complémentaires. Donc il y a des choses qui existent. Et donc moi, j'utilise la technique de la gestion mentale qui a été mise en place par Antoine Lagaranderie, qui est professeur de philosophie, je crois, à Paris 8, si je m'en souviens bien, je ne suis pas sûr. Antoine Lagaranderie, c'est quelqu'un de très intéressant. Alors moi, qui m'aide beaucoup pour dédramatiser, je prends souvent deux références quand je dédramatise la scolarité auprès d'élèves angoissés ou mamans angoissées ou parents angoissés. Souvent, les cours, c'est les mamans et les enfants. Des fois, j'ai un peu les papas, mais c'est souvent maman, enfin, c'est souvent ça. Antoine Lagarnerie, si on prend le cursus vu de l'extérieur, il a redoublé 6 fois. Il a fait une année de primaire, refaite, une année de collège et une année de secondaire, plus 3 années au niveau supérieur. Bon, je ne suis pas totalement sûr des chiffres, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Et à un moment donné, il a postulé sur lui. Un peu comme Freud l'a fait à son niveau sur un autre domaine, celui de la psychanalyse, en postulant sur certains constats. Lui, il a postulé sur lui. Il s'est dit, mais attends, mais quand j'ai refait certaines choses que je ne suis pas arrivé à faire dans le passé, ben en fait, c'est parce que je n'ai pas fait travailler, d'une certaine façon, mon cerveau, quelque part. Et donc, il a mis en place toute une méthodologie qui est maintenant reconnue, même au niveau de l'institution scolaire, hein, donc, qui est la technique de la gestion mentale. Bon, pour la petite histoire, il a fait des livres que je trouve très intéressants, que moi je recommande beaucoup à de nombreux parents. C'est Réussir, ça s'apprend, donc d'Antoine Lagarnerie, et Apprendre à apprendre, qui est rien qu'avec le thème et tout un débat. Alors, au niveau de la gestion mentale, il y a 3 axes. Enfin, moi, je l'ai synthétisé comme tel. Voir, entendre, imaginer. Donc il y a un axe visuel, un axe auditif, un axe, la Lagarnerie parle plus d'évocation. Moi, je l'ai un petit peu modifié sur des recherches personnelles. Je préfère l'intégrer sur de l'imagination, mais une imagination au service du principe de réalité, c'est-à-dire une imagination au service du travail et non pas sur un axe Blanche-Neige et les 7 nains ou je ne sais pas. Hein, c'est-à-dire une imagination qui va permettre de sécuriser un raisonnement que j'utilise beaucoup, par exemple, sur les situations de problème auprès d'élèves, quand il y a des histoires de je ne sais quoi. Bon, avant, c'était les trains qui se croisaient, bon, ou tout simplement des successions d'opérations. On fait des multiplications, des divisions, des soustractions, et on l'ajoute au reste. Bon, mais il y a toute une technique là-dessus. Alors, bon, ça, c'est juste un petit témoignage rapide sur la façon de travailler. Donc ça, c'est un élément donc, que j'ai repris de la Lagarnerie et je l'ai un petit peu modifié. J'y ai rajouté ma différence. C'est-à-dire que, en fait, ces 3 axes-là, c'est ce qui va nous servir à apprendre et comprendre. Voir et entendre, c'est ce qu'on retrouve dans le par cœur, qu'on connaît dans nos poésies d'antan ou actuelles. Hein, donc c'est on va voir, on va donc lire plusieurs fois, se le répéter à haute voix, donc ça c'est sur cet axe-là. Imaginer, ça va être la compréhension. Lagarnerie le dit très bien dans un de ses livres où il parle d'une enfant qui n'arrivait pas à réciter et à retenir, je crois que c'était Perrette et le pot au lait ou un truc comme ça. Et en fait, il témoigne en disant qu'il lui a fait travailler sur l'histoire, en disant, tiens, on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Perrette, ben, tiens, on va imaginer qu'elle a un pot, elle le met sur la tête, elle se promène, etc. Et la jeune fille, tout à fait partante, a été très intéressée par cela, et ensuite, une fois qu'elle a bien compris, il lui a dit, ben voilà, cette jeune fille, c'est Perrette. Et puis, ce qu'elle a sur la tête, c'est le pot au lait. Et puis, etc., et elle a pu retenir par cœur la poésie. Alors souvent, moi je dis par exemple à des parents d'élèves sur des élèves de petit niveau, quand ils sont tracassés sur la lecture, c'est un petit témoignage, là, j'avais prévu de ne pas trop parler, mais je suis désolé, je vais pas commencer, je vais vous passer la parole très vite quand même. Donc en fait, je leur dis toujours de passer par une histoire que l'on raconte, etc. Voilà. Dernier point que je voulais juste témoigner au niveau de ma façon de faire, ça c'est donc plutôt pour apprendre et comprendre, le comprendre étant donc dans le côté évocation, imagination. C'est parce qu'un élève, c'est ce que l'on connaît auprès de nombreux collègues de l'enseignement, quand on donne un exemple. L'exemple va nous permettre de comprendre, non pas parce que c'est un exemple, mais parce que l'exemple va déclencher le processus de l'imagination. Et c'est en fait le déclenchement du processus de l'imagination qui nous fait comprendre. Voilà. Donc des collègues formés sur cette technique-là font sciemment un exemple. Et puis ceux qui ne le font pas sciemment le font quand même. Et c'est très bien puisque ça permet à l'élève en autonomie de le faire. Voilà. Ça, c'est l'axe que je fais pour permettre aux élèves déjà d'avoir conscience de comment apprendre et comprendre. Sachant que les trois doivent être menés de front, hein, je les ai synthétisés là, de façon un peu sectorisée, mais les trois doivent être ensemble, hein, c'est-à-dire qu'il faut à la fois voir, entendre et comprendre, j'ai envie de dire. Hein. Pour organiser le travail, moi je leur donne ces trois petits outils. Je leur fais même construire sur des fiches Bristol que j'intitule « Pour réaliser tout travail ». C'est aussi simple que ça. Avant de faire le travail, je leur dis en fait que le faire, il va falloir l'encadrer par le dire. Avant de réaliser leur travail, je leur fais verbaliser le raisonnement et l'organisation du travail qu'ils vont mettre en place. C'est-à-dire, sur une situation de problème, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va d'abord rajouter ça, une fois qu'on aura rajouté ça, on va l'enlever de ça, puisque c'est ce qui reste, et ensuite on fera la phrase-réponse en reprenant tel élément de la question. Hein, là, au conscient, on va reprendre, on va dire, les éléments de la réponse, de la question pour avoir la réponse, ce que l'on a en psychanalyse quand on dit... que quand on se pose la question, la réponse est en soi. Là, c'est un peu plus sur l'axe psychopédagogique, mais c'est un peu le même principe. Une fois que l'élève est au clair sur son schéma de raisonnement mental, de déroulement, ensuite il fait, donc, alors, oui, excusez-moi, je le traduis rapidement, dire donc ce que l'on va faire. C'est-à-dire que l'on annonce le menu du faire. Hein ? Une fois que c'est dit, bien entendu, il faut toujours faire ce que l'on a dit, ce qui est logique, hein. Vous voyez que c'est pas, je pense, pas très compliqué, mais c'est toujours un souci de simplification. Donc faire ce que l'on a dit, ce qui permet là de mettre en adéquation déjà l'auditif et le visuel, puisque, oui, peut-être précision que je vous rajoute, le dire, je le fais dire à haute voix. Parce qu'on peut se le dire mentalement, mais là, je le fais dire à haute voix. Je fais donner les instructions, s'autogérer quelque part, je les fais dire à haute voix. Et une fois que le travail est fait, je lui demande de redire ce qui a été fait, ce qui a fait en le relisant. Alors, il me dit, mais je vérifie en fait, pas seulement. Tout simplement, je redis, bon, alors là, j'avais prévu d'additionner. Ok, j'ai bien additionné. Ensuite, j'avais dit que je prendrais cet élément-là. Oh, mais je l'ai oublié. Ce qui lui permet en fait de resynthétiser un petit peu le déroulement et que ce qui est annoncé au menu corresponde bien à ce qui a été fait et vérifié à la fin. Voilà un petit peu rapidement. De façon très synthétique, comment je travaille un petit peu sur cet axe-là. Alors, moi, ce que je propose, parce que j'ai, encore une fois, je le redis, je n'ai pas la prétention d'être là pour une quelconque leçon à donner, si ce n'est un témoignage. Je propose que l'on échange ensemble et que vous me posiez les questions que vous désirez. Joël Fabretti a la gentillesse de prendre le relais au niveau micro pour ceux qui désirent poser des questions. Alors, ou sur cet axe-là, ou plus précisément sur le côté dédramatisation de la scolarité, où c'est quand même le thème accroche du Tout à fait. Tu me noteras, Lionel, plutôt. Voilà, donc, je vais passer le micro.
Vous avez parlé du processus de mémorisation et d'évocation par rapport à des personnages. La fable de La Fontaine, je trouve que c'est très bien. Mais je pense, par exemple, au domaine de l'architecture, qui est peut-être plus abstrait. Pour retenir certains domaines spécifiques à l'architecture, ça passe peut-être par une autre forme d'évocation, un travail plus stylistique, je ne sais pas, mais bon, je me pose la question.
Oui. Alors, en fait, oui, c'est un élément que je n'ai pas précisé, et donc je vous remercie de cette intervention pour que je puisse vous répondre. En fait, au niveau de l'amplification de l'imagination, je travaille, quand c'est sur un travail de français, on va beaucoup plus travailler sur l'abstraction, c'est-à-dire le sens figuré. Et quand on va travailler sur les sciences mathématiques ou autres, on va beaucoup plus travailler sur la concrétisation. Alors par exemple, je vais prendre un exemple sur les vecteurs mathématiques. Je suis désolé, ce n'est pas forcément des plus passionnants. Je vous promets, il n'y aura pas de travail sur ça. Mais moi, je prends à un moment donné un exemple d'une barque qui est sur une rivière, où il va y avoir une notion de déplacement de la barque, quelque part, où l'on va prendre en compte la vitesse liée au moteur, si vous voulez, et la force du courant. Sachant que dans ce cas-là, on arrive à comprendre au niveau du principe du mécanisme mental que si le courant est inverse, il va y avoir donc un frein à la vitesse. Et ce qui va donc permettre après, au niveau mécanisme, à l'élève, donc là c'est plus pour les élèves de collège avec qui je travaille, de comprendre qu'on va pouvoir ajouter des vecteurs, les soustraire, les amplifier, etc. etc. Un autre élément, par exemple, bon, qui est aussi lié à des matières abstraites aussi, c'est les équations inconnues, avec les x, les y, etc. Alors moi, j'essaye toujours de le concrétiser. Alors moi, j'utilise la technique de la balance du marché. Hein, c'est-à-dire que on va prendre... je pars du terme équation, donc au niveau déclenchement de l'imagination et du vocabulaire commun, équation, équidistant, équilatéral, donc égal. Qui dit égal dit que c'est quelque chose d'égal. Et après, là, je déclenche l'axe pour la compréhension. Et je dis, quel est, par exemple, sur un marché, quelque chose que l'on peut trouver qui est égal d'un côté et de l'autre. Et donc, l'élève, je l'ennuie quand même habilement, donc l'élève le trouve plus ou moins à chaque fois, c'est-à-dire on trouve une balance. Et après, comment on explique une équation inconnue ? Mais on dit par exemple, si on a... Alors moi, je fais toujours basique, le plus simple possible, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut transmettre et peut-être dédramatiser, tout simplement. Je pars de 1 plus 1 égale 2, hein, donc je mets 1 plus 1 d'un côté, et 2 de l'autre. Il est bien entendu que comme c'est en équilibre, hein, si on prend donc une balance, hein, je vais vite le symboliser, je ne sais pas si j'ai le feutre sur moi, non, je vais peut-être le prendre. Voilà. Bon, des fois, et même je fais même ça avec des élèves de terminale, hein, je veux dire, je leur dis en toute transparence, c'est pas du tout péjoratif de prendre des exemples quasiment de 10 ans en arrière. C'est une technique au niveau de la synthétisation, au niveau de la gestion mentale. L'important étant de comprendre l'articulation, comment ça fonctionne en fait. Une articulation du raisonnement, qu'il soit mathématique ou autre. Donc je leur dis, si vous enlevez un là, pour que le égal soit valable, il faut l'enlever là. Donc en fait, le principe, c'est qu'une équation, c'est un principe de vase communicant. C'est-à-dire que si on a plus 1 là, on l'envoie de l'autre côté, il devient moins 1. Et à travers ce mécanisme-là, bon, c'est des exemples hein, bon, là, qui sont mathématiques, j'en ai d'autres. À travers ces exemples-là, si vous voulez, l'élève... un dernier exemple, je vais prendre Pythagore. Bon, tout le monde le connaît depuis... qu'on soit petit ou grand. Bon, Pythagore, il y avait un élève, le théorème de Pythagore, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à comprendre Pythagore et sa réciproque. Alors je lui dis, Pythagore, il dit triangle, rectangle, la formule, machin truc, et réciproque, la formule, ça veut dire qu'il est triangle, rectangle. Il me dit, mais je ne comprends pas. Je lui dis, bon, feu rouge, voiture arrêtée. Tout le monde comprend ? Il me dit, oui. Bon, je lui dis, maintenant, si vous voyez la voiture arrêtée et que vous savez qu'il y a un feu, même si vous ne le voyez pas, vous en déduisez qu'il est rouge. Ah d'accord, voilà. Bon, je prends des exemples peut-être qui peuvent avoir l'impression d'être ridicules, mais qui sont en fait au titre d'une synthétisation pour en fait uniquement mettre son énergie sur la gestion, on va dire, mentale du mécanisme de la compréhension, qui va donc avoir une emprise sur la dédramatisation, puisqu'à partir du moment où l'élève va se sentir apte avec une certaine méthodologie, il va être beaucoup plus rassuré aussi au niveau de sa scolarité. Voilà, je vous laisse la parole. Je m'excuse d'avoir été un peu...
Alors je m'excuse toujours pour cette voix. On parle bien de drame, c'est-à-dire que c'est souvent des enfants en échec.
Oui,
parents inquiets, etc.
Oui, oui.
Moi, je suis vraiment dans l'autonomisation de l'enfant. J'entends très bien votre méthodologie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une partie intéressante à aider l'enfant, ou l'élève en tout cas, à trouver lui-même ses exemples par la suite.
Bien sûr.
Parce que c'est très inductif quand même,
tout à fait.
Malgré tout. Et bon, j'ai des notions, comme tout le monde, de scolarité, mais peut-être pas dans certains domaines comme l'architecture. Et je peux faire, effectivement, on peut se retrouver face à des choses qui ne vont peut-être pas être évidentes à expliquer à un enfant, même avec du basique. Il aura peut-être ses mots.
Tout à fait. Alors, c'est un élément peut-être que je n'ai pas précisé, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je ne travaille que sur l'autonomisation de l'enfant, le sens étant qu'un jour, il ne travaille plus avec moi. Hein, c'est le sens premier même. Pour cela, j'ai une position qui est la mienne, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, j'ai une position qui est de dire que l'on ne peut accompagner un sujet en devenir au titre d'une autonomisation que si on l'accompagne. C'est-à-dire que moi, j'ai dans un passé antérieur été amené à être directeur de centre de vacances, etc. Donc j'ai aussi une habitude sur tous les projets éducatifs, etc. J'ai toujours été très circonspect quand sur des projets pédagogiques ou éducatifs, on voulait faire de l'autonomie sans gestion de cette autonomie. Pour moi, une autonomie réussie, c'est une autonomie accompagnée. Il faut faire attention, on peut avoir le souci, en toute sincérité, je veux dire sans aucune méchanceté, ce que je vais dire. On peut des fois avoir l'intention de vouloir rendre un enfant ou un élève autonome. Et en fait, en le laissant trop seul, il n'aura pas la ressource pour pouvoir prendre le relais à un moment donné. Alors qu'est-ce que je fais par exemple quand je travaille avec des élèves qui ont beaucoup de difficultés à gérer en même temps? Ben, on se fait un échéancier, on se fait un contrat. On dit bon allez, sur trois choses à faire. Bon, c'est de là, ok, avec maman, mais celui-là tout seul. Bon, on fait un petit contrat, quoi, on le négocie. Et oui, je ne vous ai pas totalement répondu. Par rapport à son langage propre, ben, en fait, c'est là aussi pareil. C'est-à-dire que moi, je lance avec mes exemples, mais après, je lui dis de suite, hein, je renvoie l'interrogation. Et toi, qu'est-ce que tu m'en dirais, toi? À quoi ça te fait penser? Je renvoie de suite l'interrogation, en fait. Il y a quelques mois, un journaliste m'interrogeait sur ma méthode et je disais, moi, le sens pour moi du travail, c'est de renvoyer l'interrogation. Ce qui rejoint la complémentarité avec les sciences humaines et donc la psychanalyse. Voilà. D'autres questions ? Ça, on a encore le temps, bon, sinon je peux continuer un peu, si Chantal voulait intervenir un peu.
Dédramatisons.
Oui, oui, j'espère que ça marche. Est-ce que vous avez des questions même particulières sur quoi que ce soit autour de la gestion de la scolarité, de tout cela? Moi, je pense que... Mais allez-y, c'est bien. Ça m'arrange que vous posiez des questions, ouais, ça me déclenchera d'autres, sans doute.
En tant qu'ancien enseignant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'aider l'enseignant à apprendre à apprendre à l'enfant?
Alors, je peux pas trop répondre au nom de l'institution parce que je n'en suis pas représentatif. Hein. Ce que je sais, c'est que ça évolue progressivement. Il y a, je reprends ce que je disais tout à l'heure, l'enseignement français a pris des orientations il y a quelques années qui sont à nouveau réaccentuées suite à des directives de M. Lang il y a quelques temps, là, quelques mois, sur une volonté qui rejoint un petit peu tout ce qu'on appelle le dialogue pédagogique, l'élève actant, hein, donc tout ce qu'on appelle la construction du savoir. Bon, ceci dit, à mon avis, il y aura un certain temps avant que tout cela arrive. Par contre, je sais qu'il y a des gens formidables. Moi, je ne peux que témoigner de cela. Je préfère toujours parler de ce qui se passe bien que de ce qui se passe moins bien. Et ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est... moi, je le fais souvent de façon provocatrice auprès des élèves. Moi, je le fais sciemment. Je vois un élève en difficulté. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une élève qui même... n'aurait pas été bien à titre, c'est une jeune élève de troisième, bon, qui vivait mal un certain relationnel aussi au niveau de l'enseignement, etc. Bon, j'ai de suite dédramatisé, puis j'ai essayé de donner des exemples un peu positifs et volontairement, quand on travaille sur un axe de travail, donc que ce soit un exercice, un contrôle raté, entre guillemets, moi je mets des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire raté, hein, quand on voit la garanderie. Oui, l'autre exemple que j'utilise, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, c'est Einstein, hein, qui n'en est pas des moindres. Hein. Einstein, jusqu'à 12 ans, si je me souviens bien, je ne suis pas trop sûr des chiffres au niveau âge, a été catalogué par ses enseignants comme on ne fera rien de lui. Quand on voit la destinée qu'il a eue, moi je trouve que ça fait une belle bouffée d'oxygène que je peux donner à mes élèves des fois en névrose d'échec à des moments donnés. Et puis moi je suis passé par là aussi, moi je leur dis que j'ai redoublé, que des fois quand j'avais 9 de moyenne pour passer la classe d'après j'étais content. Hein, donc voilà, ça fait partie des petites recettes entre guillemets de dédramatisation. Moi j'ai eu le cas par exemple l'an dernier, tiens je vais témoigner de cet élève là. Il est passé de justesse du CME2 à la 6e. De justesse et de justesse. Il était, en plus, il est sur un collège un petit peu pilote, bon, avec une pression un petit peu plus importante qu'un autre collège, et ce n'est pas du tout négatif ni péjoratif à l'intention du collège. Je lui dis, voilà, on part du principe qu'il est possible que vous redoubliez. Et on va se faire à cette idée-là. Il avait au départ 3-4 de moyenne. Hein. Bon, ça lui a demandé une énergie phénoménale. Il est arrivé à 10 de moyenne en fin d'année. Mais vu le rythme et l'énergie que ça lui a pris, il a fait le choix, et là c'est sa maman et lui qui ont décidé, de refaire une année pour se sécuriser. Et là, cette année, il va beaucoup mieux, etc. Donc il y a même eu la dédramatisation du redoublement qui faisait que le professeur principal, donc, j'ai rencontré qui est quelqu'un de formidable, a dit « je vous laisse le choix ». Nous, on peut, en tant qu'équipe pédagogique, le laisser passer. On sait qu'il aura peut-être des difficultés parce que le rythme en cinquième va être encore un peu plus soutenu. On vous laisse le choix, sachant que s'il redouble, ça peut être... Et en fait, vu que ça a été tellement construit de façon positive, que pour cet élève, à l'instant T, ça a été vécu non pas comme un échec, mais au contraire, comme une expérience qui va lui permettre de prendre une sorte de sagesse pour après sécuriser sa scolarité par la suite. Une chose que je dis, moi, que j'implicite auprès des élèves et des parents, c'est la dédramatisation du redoublement. Alors, des fois, il y en a qui me disent « Oui, mais donc je peux redoubler ?» J'ai dit « Bien sûr que vous pouvez redoubler. » L'important, c'est de dire « On en fait quelque chose, mais on va travailler pour essayer que vous ne redoubliez pas. » Hein, c'est dédramatiser la scolarité, c'est pas dire je redouble et je fais rien. Hein, ce serait mal utiliser ce que l'on dit. Hein, c'est par contre dire que, comme on l'a vu à l'instar de beaucoup de chercheurs et pédagogues ou chercheurs, je reprends le terme général de quelque science que ce soit, c'est une expérience de vie qui permet, à condition d'en faire quelque chose. C'est là où il faut des fois intervenir, parce qu'il y a des fois des élèves qui s'enferment dans une sensation où il n'y a pas d'ouverture, et c'est là où il faut en faire quelque chose. Oui, donc je reprends ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc des fois, moi, quand je commence avec un élève très stressé, je lui dis, allez, on va prendre le problème le plus dur, vous avez eu la plus mauvaise note. Donc je m'attaque vraiment à ce qui peut être vécu comme le plus pénible. Et donc, en utilisant ces techniques-là de tout à l'heure, donc je vous ai cité tout à l'heure, on va de suite, à un moment donné, il va comprendre. Ce qui fait qu'après, il me dit, du coup, ça j'ai compris. Déjà, on en règle les trois quarts. Et c'est beaucoup plus valorisant, parce que c'est lui qui dit, j'ai compris. Et c'est lui qui s'auto-régule, même dès la première séance. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. J'ai vu peut-être tout à l'heure, il y a quelqu'un d'autre qui s'était manifesté. Oui, voilà. On va vous laisser le micro.
Bonjour. Comme vous citiez tout à l'heure l'exemple d'Einstein, je me disais, est-ce que ça ne prouve pas un petit peu que la scolarité n'est pas la seule voie, l'école n'est pas non plus la seule voie de se construire et de réussir, puisqu'en fin de compte, on peut très bien rater à l'école et avoir une découverte de la vie et de soi-même tout à fait exemplaire. Et on a beaucoup d'exemples encore aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est la seule voie c'est la notion de réussite de la scolarité qui m'interpelle.
Oui, c'est une bonne question, comme on dit. Encore une fois, je ne peux pas répondre sur certains axes, mais je pense que les responsables de l'enseignement, qui sont des gens responsables et qui font un travail important au niveau recherche, en ont conscience, et il y a beaucoup de complémentarités qui se mettent en place. Et je crois que maintenant, on ne peut pas dire que l'école ait la prétention de dire que c'est la seule référence de construction d'un sujet. Il y a beaucoup d'élèves qui vont aussi, et d'individus qui vont se construire au titre d'une expérience autour d'activités sportives, autour d'activités culturelles ou autres même, et qui vont apporter tout cela au niveau de la construction. Qu'est-ce que je peux dire ? Par exemple, moi, je peux vous témoigner d'une élève avec qui je travaille qui est déscolarisée. Bon, qui a pris l'axe, en accord avec les institutions académiques, de faire sa scolarité chez elle. Donc c'est sa maman qui joue le rôle de professeur particulier. Donc il y a tout un programme, et moi j'interviens sur une régulation, surtout mathématiques, bon, parce que j'ai une formation scientifique, donc j'avoue, je dois tirer ça, sans doute. et donc, moi je peux témoigner que ça se passe bien. Ça se passe bien, bon, il y a un rythme un peu différent. Je pense que c'est, en toute sincérité, dans l'absolu, il faut aussi avoir quelqu'un qui soit disponible, qui puisse le faire. Il y a des choses qui existent. Moi, en toute sincérité, je pense que il y a différentes voies de réalisation. L'école a une part importante et justement, des complémentarités peuvent se trouver. C'est peut-être une réponse sans en être une, j'en ai conscience, mais je vous rejoins quand même. Mais tout en reconnaissant qu'en fait, moi, je le prône plus au titre d'une complémentarité, d'une diversité, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si je ne l'ai pas totalement répondu, précisez votre question.
Non, la précision, c'était simplement quand vous travaillez justement avec une personne, un enfant ou un adolescent en échec, avant de déterminer et de l'aider à trouver la méthodologie pour mieux comprendre et apprendre. Est-ce que vous ne soulevez pas avec lui le sens qu'il donne à son... Parce que c'est quand même momentané, un enfant, quand il rentre à l'école. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, donc je ne connais pas trop l'expérience. Mais au démarrage, l'école, c'est le lieu où on découvre pas seulement ABCD, mais d'autres gens, on apprend plein de choses, quoi. Donc, je ne sais pas à quel âge ça se déclare, l'échec scolaire, mais je pense que c'est à un âge où on peut exprimer quelque chose à travers cet échec ou ce refus d'apprendre. Et donc, fatalement, pour pouvoir aider cet enfant... Il faut essayer, je pense, de comprendre avec lui qu'est-ce que ça signifie pour lui de rater l'école, parce que certainement qu'il réussit d'autres choses. Peut-être qu'il s'entend très bien avec ses copains, peut-être qu'il y a plein d'autres choses qu'il réussit dans sa vie, mais il rate ça. Donc c'est cette notion. Est-ce que vous dialoguez sur le sens que cet enfant ou cet adolescent donne à son échec momentané ou...
Alors pour reprendre... Vous m'avez servi sur un plateau, donc je vais vous répondre. Vous avez parlé d'Einstein tout à l'heure, donc ben, en fait, je relativise. Je fais un lien assez facile. C'est-à-dire que le raté pour l'un peut ne pas du tout être raté pour l'autre. Et en fait, je travaille sur cet axe-là. C'est-à-dire que quand un enfant me dit « il a zéro, j'ai eu zéro », ben, j'ai dit « on ne peut que remonter ». Quand il me dit « j'ai des mauvaises notes, j'ai 9 », ben, l'autre, il aurait 9, il n'aurait pas raté. Donc s'il y a vraiment une relativité, bon, je ne vais pas plagier Einstein sans arrêt, mais en toute sincérité, qui est réelle à chaque individu. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui me racontait l'autre fois, une élève qui avait, c'est pas moi qui l'ai eu, mais bon, c'est une collègue, mais je ne sais plus, j'ai plus de souvenirs, qui me racontait que, oui ça me revient, qui me racontait qu'elle avait sa fille, qui était dans le collège, et qui avait sans arrêt des zéros, bon, sur une difficulté en orthographe. Elle arrive chez sa mère, rayonnante, elle dit « Maman, ça y est, j'ai une super note. » La mère, rassurée, j'ai eu 3 sur 20. Ben, c'est ça, en fait. Alors, je crois que ce qui est important, c'est toujours de dédramatiser en fonction en fait de la réponse que nous donne l'enfant, parce que il y en a un qui va le vivre d'une façon et d'une autre, mais toujours après de le projeter sur comment le pourquoi il n'est pas intéressant, Le pourquoi tu n'y es pas arrivé, pourquoi, parce que si, parce que ça. Moi, quand il y a des parents qui commencent à me dire, oui, mais vous comprenez, machin, truc, machin. Je dis, attendez, nous, on va, hein, je ne peux pas non plus gérer totalement l'histoire de l'enfant, on va travailler sur le comment. Et de suite, on travaille sur le comment faire. Et en fait, ben, on arrive à trouver des solutions. Alors, bon, par exemple, sur un élève qui va avoir des zéros en dictée, ben, on va se faire un petit contrat moral. On va dire, bon, voilà, sur des mots à apprendre, on va cibler, par exemple, une dizaine de mots qu'on va gérer au niveau de la technique gestion mentale, c'est-à-dire qu'on va prendre le mot, on va dire ce que c'est, on va raconter un exemple avec ce mot, et puis une fois qu'on a bien imaginé ce que cela voulait dire, que l'on a bien travaillé l'évocation, l'imagination, ensuite on va travailler la mémorisation. Alors par exemple, bon, pour un enfant de CP, par exemple, un truc basique, qu'est-ce que je peux dire, maison, hein, donc maison, alors maison, eh bien oui, ben moi j'ai une maison à la campagne, il y a des chiens, je me promène avec mon papa, on va cueillir les champignons, voilà. Donc une fois qu'on a bien, bon, je caricature un peu, mais c'est pour tracer un peu le trait, hein. Ensuite, ben voilà, ben maison, maintenant tu vas le photographier. Bon, surtout qu'avec les petits, maintenant on fonctionne beaucoup sur le côté lecture, ce qu'on appelle le semi-global, c'est-à-dire à la fois une photographie, avec aussi ce qu'on appelle les mots-outils, et aussi une syllabique, hein, donc il y a un lien. Et une fois qu'on a bien vu dans sa tête la maison, on va voir le mot qu'on a bien vu dans la tête. Et une fois qu'on a vu dans la tête, ben on va l'épeler. C'est tout simplement basique. Alors maison, et je dis ce que je vois. Hein, donc ça rejoint ça. Hein, ça rejoint, enfin, avec la guidance, hein, je dis ce que j'ai fait ou ce que je vois. Hein, donc là, je vois le M, je dis M-A-I-S-O-N. Donc, bon, là, peut-être pas pour l'exemple du CP, parce que là, c'est pas trop... Mais bon, pour un peu plus tard, parce que le CP, c'est plus au nom du son. Hein, c'est le me, le A. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème. Et donc, on va... Plus quand on apprend l'orthographe des mots, hein, pour... voilà. Et donc, on va faire M-A-I-S-O-N. Et moi, j'ai constaté des fois que, après, quand on travaille, par exemple, avec des étiquettes, je montre au titre d'une mémoire visuelle rapide, je montre une étiquette très vite, et même à la grande surprise des parents, l'élève, non seulement me dit maison, et il me dit M-I-S-O-N. Alors, c'est pas de la magie, hein, je veux dire, c'est en aucune façon même une méthode miracle ou quoi que ce soit. Simplement, en fait, j'ai essayé d'utiliser des compétences, il y en a beaucoup au niveau pédagogique, ainsi que la gestion mentale, et aussi en m'inspirant de ce qu'a fait aussi Françoise Dolto au niveau de son travail avec des sujets des enfants. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé de Françoise Dolto qui s'appelle « L'échec scolaire ». Je m'en inspire souvent. Voilà. Par exemple, un élément, je cite quelques minutes ce livre-là parce qu'il m'a beaucoup aidé, moi. C'est quand Françoise Dolto, à un moment donné, explique à un élève qu'il a peur de demander à l'enseignant qu'il n'a pas compris. Et l'élève, et Françoise Dolto dit à cet élève, mais tu sais bien qu'il est payé, l'enseignant. Ah bon, il est payé ? Ben oui, puisqu'il est payé, tu peux. Si tu vas voir un boulanger, si tu donnes des sous au boulanger, il te donne le pain au chocolat. Si l'enseignant, tu lui donnes des sous, indirectement, par les parents, etc., d'une façon ou d'une autre, hein, hein, que ce soit les impôts ou indirect, peu importe, hein, c'est au niveau symbolique, eh bien, l'enseignant, il est payé pour aider les enfants. Alors, c'est vrai que, on va dire au conscient, au premier degré, un enfant, on peut lui dire, n'hésite pas à demander à la maîtresse, mais. Quelque part, chacun a sa logique à soi aussi et va peut-être ne pas oser demander. Et ça aussi, ça fait partie de la dédramatisation. Moi, j'ai vu des élèves s'autoriser à faire des choses fantastiques. Moi, j'ai vu un élève qui a été en grosse difficulté. Là, c'est un élève de collège. En grosse difficulté relationnelle avec un enseignant sur un malentendu. Bon, sans citer... bon, moi, je... J'ai beaucoup aussi une référence à titre personnel au titre de Jacques Lacan. Jacques Lacan dit il n'y a pas de malentendu, il n'y a que des malentendants. Et je lui dis, mais ce malentendu, à mon avis, vous n'êtes pas compris. Je ne lui ai pas cité ça, bien sûr, cet élève, mais je m'en suis inspiré. Je lui dis, mais allez rencontrer la professeure. Bon, il avait un mot déplacé qui n'était pas à son encontre, mais enfin, elle s'était retrouvée à côté de la fille avec qui s'était disputée. Bon, je lui dis, et tout simplement, vous allez vous en expliquer. Eh bien, ça a tout débloqué. C'est-à-dire que l'enseignante, qui est quelqu'un de très très bien, a été très touchée par cette attitude. Et il a eu beaucoup de courage. Il est allé à la boîte des enseignants, une boîte aux lettres, donc, hein, il est allé demander un rendez-vous par écrit. Il a mis dans la boîte aux lettres. Et une fois qu'il a obtenu ce rendez-vous, donc, elle l'a reçu, etc. Et tout s'est débloqué. Alors, c'est vrai que j'ai un gros défaut, je parle beaucoup. Et j'en avais un petit peu oublié Lionel, alors je vais un peu le regarder quand même. Les enfants de Dolto étaient très moyens à l'école. Ils n'ont pas mal réussi. Carlos Cate. Oui. Oui. Comme quoi, ça mène même jusqu'au showbiz. Il reste à peu près 10 minutes. Je me regarde le temps aussi. Si vous avez d'autres questions au titre d'un échange, c'est avec plaisir. Ces quelques minutes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Sur un axe particulier, ça peut être même par rapport à quelque chose que vous connaissez à titre personnel, hein, si vous désirez. Hein. Il n'y a pas de. On va laisser.
Il y a de plus en plus de psychologues, de pédopsychologues.
De pédopsychologues. Il y a beaucoup de structures, oui, prenant en compte la psyché au niveau de l'élève, oui, tout à fait. Oui. Il y a au niveau de l'école primaire, il y a des structures qui s'appellent le RASED, avec un rééducateur, un maître, qu'on appelle des maîtres E, bon, c'est des classifications, ce sont des enseignants spécialisés, ainsi qu'un psychologue scolaire, puis il y a des partenariats avec des autres structures scientifique et médical également. Il y a un réel souci de l'institution de protéger pour le mieux l'élève et de l'accompagner sur ses difficultés. Tout à fait. Oui. D'autres questions ? Au niveau de... D'un élément peut-être que je vais rajouter en ce qui concerne la dédramatisation de la scolarité. Bon, il y a un élément aussi qui me paraît intéressant, c'est le dialogue régulier entre la famille et les intervenants. Souvent, pour rejoindre les histoires de malentendus, j'ai constaté que des fois on laissait grossir des éléments et qu'en fait c'était pas grand chose. C'était un petit malentendu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et là, moi, j'aurais envie de dire promouvoir le dialogue. Bon, moi, la garanderie, pour le reciter ce que j'ai utilisé tout à l'heure, je l'ai cité tout à l'heure, lui prône ce que l'on appelle la technique du dialogue pédagogique. Hein, bon, plus sur un axe au titre de l'enseignement, mais je crois que ce dialogue pédagogique peut être un dialogue de vie, quoi, hein, quelque part. Hein. Moi, je pense que dédramatiser une scolarité, à mon avis, peut se mettre en place au titre d'un dialogue réussi et bien mené. Voilà un petit peu ce qui me vient là à l'esprit. Voilà. D'autres questions ? Je ne veux pas non plus. Oui ? Joël ? On va vous donner le micro.
Un enfant qui n'aime pas la lecture, n'aime pas lire. Donc, comment dédramatiser pour qu'il s'intéresse à ça ?
D'accord.
Selon mon avis.
Alors. Excusez-moi, juste une question complémentaire. Il a quel âge ? 10 ans. D'accord. Donc, on va dire au titre d'un âge où déjà la lecture devrait être plus ou moins une habitude quelque part. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut l'encourager pour que ça aille mieux. Parce que, bon, on va dire en règle générale, à 10 ans, ça devrait se mettre en place. Alors. Moi, j'ai vu des élèves où des fois, ça se met en place beaucoup plus tard, le goût de la lecture. Je parle du goût. Hein, du goût hein. Moi, ce que je fais, alors il y a beaucoup d'outils hein, qui existent, bon, même si moi je ne pratique pas, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le font, qui sont des choses tout à fait intéressantes, qui font beaucoup de projets spécifiques autour de, par exemple, du théâtre, autour d'activités culturelles, où ça peut donner un sens au niveau de la lecture. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la lecture, il faut de suite qu'il y ait une notion de plaisir. Alors, en fait, il faut voir ce que votre enfant aime bien. Moi, j'ai fait de la lecture avec un élève de CP il y a un an ou deux, bon, sur une complémentarité au niveau du soutien, sur des livres de moto. Parce que je n'arrive... Alors, en plus, moi, je n'y comprenais rien en moto. Alors, je ne vous dis pas, quand il me parlait de BMX ou de je ne sais pas quoi. Là, après, du coup, on inversait le rôle. Parce que, oui, peut-être, après, je vais répondre à votre question. Une chose importante, c'est je me mets toujours, à un moment donné, de chaque cours, de chaque séance, en situation de présupposé ignorant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est je suis l'idiot de service... Et c'est l'élève qui me dit, mais comment, tu n'as pas compris ça? Mais c'est le mot que tu m'as expliqué l'autre fois, ça veut dire ça. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bon, bien sûr, je le fais exprès, mais ça fait partie de la guidance également. Alors, au niveau comment faire aimer la lecture, je vais dire ce que je fais moi, parce que je ne peux pas faire autre chose. Moi, j'essaie d'utiliser donc quelque chose qui leur plaît, et je commence moi. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en résistance sur la lecture, je ne vais pas commencer à le faire lire, puisque c'est sa résistance. Donc il faut utiliser un petit peu certaines techniques pour que ça s'accompagne, en fait. Et donc c'est moi qui vais commencer à lire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va écouter, il se repose, je lui dis bah, tu te reposes, là, c'est moi qui fais un peu le travail, hein, voilà, tu m'écoutes. Et puis à des moments donnés, je vais oublier certains moments. Et lui, il va commencer à intervenir. Par exemple, je commence une histoire que je lui ai lue, hein, et puis je vais la reprendre. Puis à un moment donné, je parle pour des petits par exemple, hein, puis je vais la reprendre, l'histoire, et à un moment donné, je vais m'arrêter, je ne me souviens plus. Et lui, il va présupposer ignorant. Lui, il va venir, mais oui, mais ça, tu me l'as dit, ça c'est. La belle au bois dormant. Bon, là, je caricature, hein, je prends un exemple qui n'est pas représentatif parce que je ne l'ai jamais trop fait, mais c'est un peu ça, si vous voulez. Alors, au niveau de la lecture, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la lecture. Il y a Freinet qui a beaucoup apporté au niveau de la lecture. Il y a Foucambert, Charmeux, bon, c'est des références de pédagogues, mais là encore une fois, je ne voudrais pas rentrer sur un axe plus professionnel, mais bon, c'est des gens qui ont beaucoup apporté. Ils ont en fait beaucoup travaillé la lecture comme plaisir en donnant sens. Et pour donner sens, il faut partir de ce que l'enfant aime. Donc je crois que s'il n'aime pas la lecture, il faut peut-être rentrer avec lui en disant, bon, qu'est-ce que... Bon, vous savez, s'il aime le foot, moi je fais un cours avec... comment ça s'appelle, la France Foot ou je sais pas quoi là. J'ai fait avec, alors il m'explique tous les clubs, j'y comprends rien aussi. Voilà, j'ai eu moto et foot, j'ai eu les deux, au moins comme ça j'ai été informé. Mais c'est vrai que pour qu'il ait le goût de la lecture, il faut qu'il y ait un sens. Et une fois qu'il y aura un sens, alors par exemple au niveau des tout petits, ce qui n'est sans doute pas le cas de votre enfant, sur l'apprentissage pur de la lecture, quand il y a une résistance, une difficulté, je fais des jeux de mécanique. On va inventer, donc on travaille là l'imaginaire, mais plus sur le côté mécanique, on va inventer des mots imaginaires, puisqu'on travaille des syllabes. On a fait la syllabe là, on a fait la syllabe pi, on a fait la pa, ben on va faire la, papi, là. Donc on invente des mots uniquement au niveau mécanique. Donc... Et ça, c'est une pratique. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est souvent ce qu'on fait en accompagnement au niveau d'élèves de CP, par exemple, hein, quand il y a une difficulté sur l'apprentissage de la lecture. Quand ils commencent à apprendre les syllabes, hein, le et a, là, après, on joue avec les syllabes, on jongle avec les syllabes. Donc, ça fait des mots imaginaires, mais sans aucun sens. C'est ça qui est important. Et ça, il faut bien le mettre en place un certain moment, on va dire. Et au bout d'un moment, après, on va pouvoir... cette fois-ci, les construire avec le sens. Et l'autre fois, on a fait le pi, le rat, le te, ça fait pirateux. Mais ça a été après 15 jours de jonglage de syllabes, si vous voulez. Donc ça, en fait, la lecture, il faut que ça en devienne un jeu. un jeu ou un plaisir. Alors, moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à votre enfant, c'est essayer d'utiliser ce qu'il aime pour peut-être tout simplement lui demander qu'il vous dise certaines choses sur ce qu'il aime. Alors, s'il a une difficulté à un moment donné, ben, on prend le relais. C'est-à-dire, on prend le relais, moi, ça m'arrive de lire ce que l'élève aime bien, surtout sur les enfants non lecteurs, donc il faut bien que l'adulte prenne le relais. Mais surtout, en fait, se mettre en situation de recevoir ce que l'enfant va nous donner, en fait. Et moi, je dis que en faisant ça, ça suffit pour débloquer souvent le processus. C'est ma façon de faire. C'est-à-dire que plutôt qu'une méthode, il y a beaucoup de méthodes qui existent, qui sont très bien, mais il est important de les adapter au profil de chaque enfant. Moi, je ne suis pas pour des querelles de dire global, pas global, machin, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'il y a du bien dans tout. En fait, c'est utiliser un petit peu cette synthèse avec peut-être ce côté gestion mentale et structuration du raisonnement et de la déduction qui, à mon avis, apporte beaucoup plus à un élève. Moi, ce que je peux témoigner, c'est que je pense, en toute sincérité, que si tout élève déjà avait la notion que pour apprendre et comprendre, il avait à faire marcher son cerveau. Moi, je prends l'exemple pour que l'élève l'entende. Je lui dis, voilà, quand on passe le permis de conduire, au début, on se dit, il faut que je pense à... C'est fini, d'accord. Il faut que je pense à... J'ai dépassé ? Non, c'est alors. Je pense à rétrograder, clignotant, etc. Ben, au début, on le fait sans arrêt. Moi, je sais que quand je l'ai passé à titre personnel, je pense le clignotant, je rétrograde, je machin. Maintenant, quand je conduis, je pense au film que j'ai vu la veille. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la gestion mentale est devenue une habitude. Et donc, en fait, dédramatiser la scolarité, c'est tout simplement donner des nouvelles habitudes à l'élève, à l'enfant, pour que petit à petit, il trouve les ressources avec des outils d'accompagnement qu'on lui a donnés et que petit à petit, il puisse s'autonomiser. Voilà un petit peu le témoignage que je voulais vous apporter.
Merci,
merci
Philippe,
de votre présence.
Je rappelle que Philippe Eledjam sera omniprésent dans la salle pendant toute la durée de ces deux journées et pourra répondre à toutes questions.